signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La raison a besoin de la raison pour penser. Dans les situations de chaos collectif, quand le besoin de penseurs calmes et rationnels se fait le plus sentir, c'est dans ces moments-là qu'ils se font le plus rares. L'ouverture du procès des attentats de janvier a donc rouvert les débats caricaturaux autour des caricatures et de la délicate balance entre liberté d'expression et ce que certains appellent le respect dû aux minorités. Minorités qui deviennent chaque jour si nombreuses que bientôt dire quoi que ce soit sur qui que ce soit sera tout simplement impossible. Mais ce débat d'actualité en cache un autre, plus profond. Selon un courant de pensée de plus en plus puissant à gauche des deux côtés de l'Atlantique, et même en Angleterre, comme on vient de le voir aux informations, c'est la philosophie occidentale des Lumières qui serait en fait la grande responsable des tensions actuelles. Sous couvert de liberté et d'universalisme, les Lumières auraient permis l'esclavage, la colonisation, le racisme, le capitalisme mondial et même Hitler, et aujourd'hui le mépris des minorités. Être vraiment de gauche aujourd'hui, ce serait donc non seulement rendre l'espace social safe pour les minorités en question, mais aussi aider au déboulonnage des statues de Voltaire et de Montesquieu, en plus de celles des grands navigateurs et commerçants négriers. La gauche du XXIe siècle sera-t-elle anti-lumière ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avec pour en parler Stéphanie Rosa. Stéphanie Rosa, bonjour.
Bonjour Marc Weinstein.
Vous êtes chargée de recherche au CNRS, spécialiste des Lumières et de la Révolution française. Et vous avez publié pendant le confinement, je crois bien.
Juste avant.
La gauche contre les Lumières, point d'interrogation, aux éditions Fayard. J'ai un peu enlevé le point d'interrogation dans mon chapeau, mais on va discuter de ça. Alors, le livre est dédié aux militants de la gauche progressiste à travers le monde, surtout celles et ceux qui payent cher leur engagement, je vous cite.
Tout à fait.
Et vous y avez ajouté, pour faire bonne mesure, une citation de Jean Jaurès assez longue, que je ne vais pas citer entièrement, mais où Jean Jaurès définit la lumière, des lumières comme le besoin de tout comprendre et de tout harmoniser, comme l'aspiration encyclopédique et cosmopolite, la passion de la science et de l'humanité, le grand mouvement que les Allemands ont appelé l'Aufklärung, reflet du mot que le 18e siècle français émettant et qui avait alors un éclat tout jeune et tout vif, les Lumières. Donc vous vous situez vraiment au sein de la gauche, dans un débat autour de l'universalisme des Lumières ou non. Ce que vous dites, hein, vous commencez en disant qu'on assiste dans une partie du monde académique et militant à un véritable tir de barrage contre la raison impérialiste raciste qui serait à la racine des principes politiques qui se réclame des Lumières au 19e, au 18e siècle.
Oui, tout à fait. Cette critique des Lumières qui n'est pas absolument nouvelle, hein, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, elle remonte aux années 60-70.
Oui, alors on va y venir. Ouais.
Et au courant de pensée structuraliste et surtout post-structuraliste qu'on appelle aussi post-moderne. Mais c'est vrai que ces 20 dernières années, elle a pris une ampleur inédite à gauche.
Alors vous citez deux, trois exemples. Alors, vous en citez beaucoup sur lesquels on va revenir, mais dès le début, vous citez le sociologue Oria Kebabza qui a écrit en 2006 un article intitulé « L'universel lave-t-il plus blanc ?» L'universel questionné par les féminismes, les études gays, lesbiennes, que l'on savait masculin et hétérosexuel, doit être repensé aussi comme blanc à la lumière des études postcoloniales.
Oui, alors d'une certaine manière, enfin j'ai pris cet exemple-là, mais comme j'aurais pu en prendre mille autres, c'est beaucoup dans le champ académique hein, qu'on trouve ces références et ces mises en accusation de l'héritage des Lumières. Mais disons que depuis que j'ai publié le livre et surtout depuis que je l'ai terminé en octobre 2019, on peut pas dire que la situation se soit beaucoup arrangée sur ce terrain-là.
Il y a un journaliste américain qui s'appelle Jamel Bouy qui écrit aussi « Les idées des Lumières ont façonné les questions de race et de suprématie blanche ». Et tout récemment, je suis tombé dessus par hasard ce matin en préparant l'émission, la journaliste Nabila Ramdani a publié dans Foreign Policy, le journal américain, un papier justifiant le déboulonnage des statues de Voltaire qui s'appelle Voltaire Spread Darkness. Voltaire a répandu les ténèbres et pas les lumières. Et elle affirme que Voltaire a inspiré Hitler.
Oui, elle n'est pas la première à le dire. Hein. Oui. C'est une idée qu'avait, si je ne me trompe pas, théorisé en premier l'historien Léon Poliakov. Il y a, je ne sais plus, quelques temps déjà. Alors, il ne s'agit pas de dire que Voltaire n'a pas commis des développements vu d'aujourd'hui, apparaissent comme extrêmement racistes et antisémites. Le problème n'est pas de nier cette dimension-là des écrits de Voltaire, mais de les replacer dans leur contexte, de les replacer aussi dans le cadre des débats de l'époque, parce que Voltaire, notamment sur l'antisémitisme, enfin, c'est pas vraiment un antisémitisme au sens du XXe siècle, c'est un anti-judaïsme qui est lié pour Voltaire à son combat contre le christianisme, qui est son ennemi principal, son adversaire majeur, et donc critiquer la religion juive, il la critique toujours en tant que matrice du christianisme. En revanche, et ça c'est quelque chose que toute cette mouvance-là oublie de façon, à mon avis, en faisant preuve d'un manque de sens historique, c'est que Voltaire a défendu les minorités concrètement, c'est-à-dire qu'il s'est élevé contre la persécution des Juifs, il s'est élevé contre la persécution des protestants, ça on le sait, sa position sur l'affaire Calas, elle est célèbre. Et ce qui importe aujourd'hui de dire, c'est que, bien sûr que les Lumières, ça dépend des penseurs, mais enfin, notamment Voltaire, n'était pas exemple de préjugés, mais ce qui importe de voir, c'est les pas en avant qu'ils font pour sortir de l'ethnocentrisme, pour sortir d'une espèce d'ambiance générale où on considérait de manière naturelle que l'esclavage pour les Noirs c'était normal, qu'il était normal pour l'Europe de coloniser les autres peuples. Et c'est les progrès que font les Lumières pour sortir d'une situation originelle qui compte pour comprendre pourquoi les Lumières ont servi de base au combat émancipateur qui ont suivi.
Alors, votre livre part d'une question, hein, comment expliquer l'hostilité croissante à l'universalisme à gauche? Comment expliquer l'hostilité croissante au rationalisme, au progressisme des Lumières dans le camp de la gauche? Alors, vous précisez que la philosophie des Lumières n'existe pas, vous n'êtes pas la première à le dire non plus, mais enfin, c'est important à rappeler que ce que l'on désigne comme sous l'expression philosophie des Lumières a été un mouvement pluriel, c'est ce que vous venez un peu de dire.
Oui, alors pluriel et paradoxal, voilà. Il est difficile, disons, de parler des Lumières, c'est toujours une simplification rétrospective. Ce que j'ai souligné, c'est que bien sûr que les Lumières ne sont pas complètement exemptes de préjugés, mais la nouveauté, c'est quand même que ces préjugés-là sont discutés, sont remis en question dans le débat. Et puis effectivement, les Lumières, ça recouvre un ensemble de prises de position qui sont parfois tout à fait opposées.
Alors vous citez un texte que je ne connaissais pas, le texte du collectif Constellation paru en mai 2014. Ce sont apparemment des épigones du Comité Invisible. Vous en faites un exemple d'une tendance vers les anti-lumières. Collectif Constellation dont vous dites qu'il a reçu un accueil médiatique exceptionnel à gauche en 2014. Libération lui a consacré sa une et un dossier entier avec une interview de 4 de ses rédacteurs. Il a bénéficié d'une émission entière sur France Culture l'année suivante. Et ce que vous dites, c'est que la critique des violentes des Lumières en constitue le fil rouge. Vous citez des extraits. Au XVIIIe, je cite moi-même les extraits que vous citez. Au XVIIIe siècle, s'éveilla une race d'hommes qui voulait classer, répertorier, expliquer. Ils confondaient le Dieu de l'Église avec la foi. Ils confondaient la raison avec le désenchantement. Par-dessus tout, ils détestaient le merveilleux, l'inexpliqué et la capacité de leurs semblables à se jeter dans l'inconnu. Ils décidèrent que pour les siècles des siècles, le réel régnerait quand qu'un serait un et que les clés du possible seraient enfouies à jamais. Et il y a dans ce texte, d'après ce que vous dites, un rejet du monde moderne, une nostalgie de l'époque médiévale, des charivaris, etc. Et même des confréries, qui sont autant de clichés romantiques qu'on attribue d'habitude aux anti-lumières.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que sont des jeunes auteurs, d'après ce que j'ai pu comprendre, qui au fond souhaite revenir en deçà de la période du développement du rationalisme, du progressisme, mais revenir en deçà, effectivement, comme les romantiques au XIXe siècle le souhaitaient, c'est revenir en deçà aussi des acquis de la Révolution française. Donc c'est revenir en deçà de l'égalité civique, de l'abolition de la monarchie, et effectivement d'une conception scientifique du monde qui nous permet tout un tas de progrès.
Alors c'est pas le seul exemple que vous donnez, hein. Vous citez aussi un collectif grenoblois, Pièces et Main d'œuvre, qui considère la technologie comme le front principal de la guerre, entre le pouvoir et les sans-pouvoirs. On en reparlera tout à l'heure, vous citez aussi François Vergès et puis pas mal de gens du camp de ce qu'on appelle aujourd'hui décolonial. Mais le point central, et c'est là que votre livre dépasse le simple cadre polémique, c'est qu'il s'inscrit dans ce que Zev Sternel, l'historien israélien que vous citez d'ailleurs, il s'inscrit dans une réflexion sur le courant des anti-lumières, c'est-à-dire le courant qui est né avec les Lumières et contre les Lumières, non pas comme une contre-modernité, mais bien comme une autre modernité, ayant pour objectif la restauration de l'harmonie et de l'unité du monde médiéval. C'est ce que vous écrivez, et citant pratiquement Sternel. Et c'est là-dessus que vous dites que Sternel, dans son analyse de la tradition anti-moderne, ne fait quasiment aucune place aux auteurs de gauche.
Ouais.
Et c'est cette place que vous prenez, en fait, dans le livre.
Oui, enfin, malgré moi, parce que j'aurais bien aimé que cette tendance anti-lumière de gauche... n'a paru jamais. Je pense que c'est ce que j'essaye de défendre dans le livre. Je pense que c'est une tendance autodestructrice pour la gauche. Mais effectivement, Sternel montre, disons, les grandes lignes directrices de cette tradition conservatrice, contre-révolutionnaire, depuis 1789 jusqu'à, si je ne me trompe pas, il s'arrête au fascisme. Mais effectivement, ce qu'il n'a pas analysé, c'est que, encore une fois, malheureusement, ces lignes directrices, on les retrouve dans une certaine pensée de gauche après la Seconde Guerre mondiale.
Alors, c'est ce qu'on va voir dans une seconde. Stéphanie Rosa, dans l'archéologie que vous faites de la tendance anti-moderne à gauche, vous citez le livre de Adorno et Horkheimer, un peu fondateur de l'école de Francfort, publié en 1944, La dialectique de la raison, dans lequel vous voyez un peu le manifeste qui explose vraiment après-guerre d'une tendance...
Pas exactement.
Oui,
d'abord, la dialectique des Lumières n'est pas le livre fondateur de l'école de Francfort, sens où, enfin,
c'est un de ceux qui est le plus emblématique.
Qui est le plus connu, mais quand même, Adorno va revenir sur le caractère excessif de certaines thèses développées dans la dialectique de la Aufklärung après la guerre.
Donc,
je veux pas, c'est quelque chose qui m'a été parfois reproché, mais j'ai pas voulu réduire l'école de Francfort, ni même la pensée d'Adorno et Horkheimer à ce texte. En revanche, j'y vois effectivement une radicalité dans la critique des Lumières qui est inédite à gauche, puisque Adorno et Horkheimer vont jusqu'à dire que les connecteurs logiques qu'on utilise dans les phrases, les si donc, par exemple, eux-mêmes reflètent la hiérarchie et la contrainte. Donc ils vont jusqu'à remettre en cause la logique élémentaire qu'on utilise dans toute discussion comme étant oppressive. Voilà. Donc j'y ai vu le premier, un premier symptôme en quelque sorte, même si ce texte il va pas être forcément influent tout de suite. Parfois d'autres auteurs, par exemple Foucault, va aller dans le même sens avant de connaître la dialectique des Lumières. Mmh. Et quand il va le découvrir à la fin des années 70, donc alors qu'il est déjà connu et que son œuvre est déjà largement écrite, il dit si je l'avais lu avant, ça m'aurait fait gagner du temps.
Oui, parce que une des choses que vous ne dites pas, ou en tout cas à mon avis sur lesquelles vous n'insistez pas peut-être assez, c'est que ce moment d'après-guerre où la raison est remise en cause, c'est aussi le moment où d'une grande interrogation, c'est-à-dire que on découvre l'ampleur des camps de la mort, on découvre la bombe atomique. La grande question métaphorique, c'est comment la barbarie a-t-elle été possible? Comment l'arbre sous lequel Goethe méditait peut-il se trouver dans le camp de Buchenwald? C'est cette question-là. Comment est-ce que la civilisation occidentale, l'Occident des Lumières, a pu engendrer les catastrophes du XXe siècle? C'est la grande question qui se pose après-guerre. Et c'est dans ce cadre-là que Horkheimer et Adorno écrit la dialectique de la raison.
Alors, la dialectique de la raison, elle est écrite pendant la guerre, en 1942, et elle est écrite à San Francisco. Enfin, oui, c'est ça, à San Francisco. Je suis pas sûre qu'il savait pour les camps de la mort à cette époque-là.
Non, peut-être pas. Enfin, ça commençait à circuler.
Mais le paradoxe.
Ça n'existait pas encore, c'est vrai.
Mais le paradoxe de cette période de l'après-guerre, où effectivement, on est complètement. Enfin, l'Europe est sous. Le monde est sous le choc, et il est légitime de s'interroger. Ce qui est étonnant, c'est que personne à ce moment-là, ou. Certains, mais ils sont minoritaires, ne se souvient que les nazis ont beaucoup insisté sur le fait que le Troisième Reich devait permettre d'en finir avec l'héritage des Lumières en Europe, d'effacer 1789, c'est une expression de Goebbels, si je ne me trompe pas, dans le mythe du XXe siècle de Rosenberg, d'Alfred Rosenberg, qui est un des idéologues nazis, il y a vraiment cette guerre aux Lumières et à 1789 qui est extrêmement présente. Donc, il paraît un petit peu étonnant, après coup, d'attribuer aux Lumières ce que les nazis ont fait. Mais l'autre paradoxe, c'est que le penseur, dans cette période d'après-guerre, qui permet aux autres de faire ce lien entre Lumière et extermination nazie, c'est Heidegger, qui est lui-même un ancien nazi, dont on sait aujourd'hui qu'il était encore nazi, en fait, après-guerre, que ses convictions n'avaient pas changé, et qui refabrique cette généalogie Lumière, camp d'extermination, mais en fait, pour en quelque sorte, disculper les nazis. Mmh. Et pour faire croire à un retournement de ses propres opinions, qui n'est que superficiel. Donc, c'est paradoxal de s'appuyer sur un philosophe nazi pour accuser les Lumières d'être responsables des camps de la mort.
Oui, parce que ce qui est mis en cause et à ce moment-là, c'est pas seulement les Lumières, c'est la technique, c'est la science, c'est la technologie, c'est tout ce qui permet l'industrialisation de la mort, c'est tout ce qui permet aussi la mise en place de la bombe atomique. Et ça vient apporter le coup final à une crise des Lumières qui date quand même depuis longtemps. C'est-à-dire que vous dites quand même que la majeure partie des philosophes des Lumières avaient foi dans les vertus de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques. Il y a un optimisme dans la tradition des Lumières parce qu'on considère que on n'a pas seulement confiance dans la technique, mais on a confiance dans la capacité des sociétés humaines à faire bon usage du progrès. La foi dans le progrès, elle implique la croyance que l'homme va pouvoir utiliser le progrès à bon escient.
Or,
ce qui apparaît flagrant après-guerre, c'est que c'est pas nécessairement le cas, et même pas du tout le cas. Les tenants des Lumières ont un problème, et la gauche a un problème. Parce que la gauche se caractérise quand même par une foi dans le progrès et par un certain optimisme dans le destin de l'humanité.
Ouais, alors j'ai deux choses à dire par rapport à ça. Bien sûr que les deux guerres mondiales successives et l'usage massif des techniques modernes dans les massacres de masse sont de nature à reconsidérer la question du progrès, en tout cas à la retravailler, on va dire. Personnellement, après l'apparition du livre et avec les discussions que j'ai eues autour de ce livre, j'ai l'intention de travailler sur cette question du progrès parce que je pense que c'est aussi un des grands défis de notre époque. On n'est plus dans l'ère des massacres de masse, mais on est dans l'ère de la catastrophe écologique. Et donc, évidemment, à quel condition on peut encore se dire progressiste, ça reste, c'est une question sur laquelle moi j'ai envie de réfléchir plus avant, ça c'est une chose. Mais l'autre chose que je voulais dire, c'est que ce constat des effets potentiellement désastreux de la technique, il va avec autre chose qui est le fait que ce progressisme un peu naïf, cet optimisme, il est incarné par les grands partis traditionnels, les partis sociaux-démocrates et communistes staliniens. Et en fait, ce qui émerge dans les années 60-70 chez certains intellectuels de gauche, c'est la volonté de se démarquer de ces partis-là,
bah oui,
à cause de leur rôle notamment dans les guerres coloniales, enfin à cause de leur...
Et aussi à cause du goulag.
Et à cause du goulag, bien sûr.
La prise en compte de la réalité du communisme fait qu'on se rend compte que là aussi, il y a une application des techniques, il y a une application d'une certaine forme de raison dans la construction des grands barrages staliniens, dans la construction des grands travaux de l'Union soviétique et dans la mise en place l'exécution des opposants.
Disons que ce qui émerge chez ces intellectuels-là, c'est en tout cas de s'opposer radicalement, non seulement à ces partis, là, mais aussi à toute la tradition philosophique et politique sur laquelle il s'appuie, dans laquelle il s'enracine. Et là, à mon avis, il y a un pas de trop qui est franchi.
Ça, on va en reparler. Parce que voilà. est-ce que sur le fond, est-ce qu'il n'y a pas, parce que finalement, ce qui différencie la réaction, le courant réactionnaire anti-lumière et le courant progressiste pro-lumière, si on veut schématiser un peu, c'est une foi dans la nature humaine contre une désespérance de la nature humaine. C'est les réactionnaires sont traditionnellement pessimistes et sur l'avenir. Et si on change les choses, on les change forcément pour pire. Les conséquences seront terribles. Mmh. Donc il faut laisser autant que possible l'ordre tel qu'il est, tandis que les gens de gauche pensent que on peut changer les choses parce qu'on peut faire progresser les choses. Mmh. C'est quand même ça l'idée, parce qu'on a notamment une tradition de progrès, une tradition de lumière sur laquelle s'appuyer. Or après guerre, surtout, il est quand même très difficile de rester optimiste sur la nature humaine.
Là aussi, c'est...
Est-ce que c'est pas ça qui...
C'est compliqué, parce que c'est le moment où commencent les guerres de libération dans les colonies. C'est aussi le moment où, voilà, les peuples... Il y a une vague révolutionnaire qui s'élève à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans les colonies. Et donc, voilà. Ça donne des raisons d'être optimiste.
Alors, c'est ce qui va être... C'est ce à quoi la gauche va finalement se raccrocher. Mmh. Ça va être la décolonisation.
Ouais.
Et ça va pas nécessairement tourner... comme on le voudrait non plus. Hein. Mais avant d'en venir là, on va en venir là dans 5 minutes. Mais avant d'en venir là, je voudrais continuer un peu sur l'archéologie de cette tradition anti-moderne à gauche, parce que vous replongez. Je garde un Foucault pour la fin. Hein, vous replongez au début du XXe siècle, en particulier l'analyse de Sorel,
ouais,
qui est très intéressante. Hein, Georges Sorel, qui est un philosophe qu'on ne connaît pas nécessairement très bien d'ailleurs, hein, qui est mort en 1922, qui était en 1847, qui a été successivement marxiste, Dreyfusard, proche du courant socialiste jaurésien, qui a soutenu la révolution russe et qui s'est élevé contre le progrès. Le livre que vous citez en 1908, Les illusions du progrès, c'est une dénonciation de la mythologie progressiste de la Troisième République qui va l'entraîner très loin. En fait.
Oui, mais là encore, il faut, à mon avis, il ne faut pas inverser les causes et les conséquences. Mm-hmm. Parce que finalement, ce qui entraîne le revirement de Sorel contre le progressisme, c'est pas d'abord une réflexion sur la technique et sur les ravages de la technique. C'est d'abord une révolte politique contre l'évolution de la situation. Il y a eu au moment de l'affaire Dreyfus une alliance objective, enfin une alliance de fait entre le mouvement socialiste et les républicains, on va dire bourgeois, pour protéger la République contre les menaces monarchistes, les menaces de l'extrême droite. Enfin, l'affaire Dreyfus a provoqué une crise politique en France. Donc il y a cette alliance républicaine-socialiste à la fin du 19e siècle. Et dès le début du 20e siècle, les républicains bourgeois au pouvoir se retournent contre le mouvement ouvrier. Ils font tirer sur les ouvriers en grève. Ils emprisonnent les syndicalistes de la CGT, etc. Et du coup, Sorel et une partie du mouvement syndicaliste révolutionnaire se retournent contre la République devant ce scandale, en fait, de la répression du mouvement ouvrier. Et c'est suite à cette rupture politique qui va développer une réflexion sur le progrès. Mais enfin, c'est là où je dis, je suis pas sûre que ce soit une évolution d'abord de sa réflexion sur la technique.
Oui, je comprends. Mais en même temps, la causalité est un peu étrange. Enfin, on sait pas on voit pas très bien pour quelle raison le fait que les ouvriers se fassent tirer dessus le conduit nécessairement à attaquer, comme vous le dites, hein, dans le texte, la science démocratique des Sorbonnards.
Parce que c'est les fondements de la République. Il faut se remettre dans le contexte. Voilà. Tout ça, c'est les fondements de la République française. Voilà. C'est les fondements revendiqués de la République française. Donc, quand on entre en rupture politique et morale avec la République, on rentre en rupture avec ses fondements idéologiques et donc on va critiquer les Lumières. Cette démarche, elle est plutôt
Il dénonce l'hypocrisie, quoi.
Ouais,
et ce que vous dites, c'est que son disciple, alors que je connaissais pas du tout, Édouard Berthe, va encore plus loin que lui dans la haine des Dreyfusiens propres à rien, comme il dit, qui est une expression
de l'Action française.
De l'Action française, des fourbes et tortueux, il s'indigne contre l'esprit du XVIIIe siècle qui est resté le grand siècle pour tous les rationalistes, les démocrates, les juifs et les Sorbonnards.
Voilà.
Et la haine de ce progressisme républicain va conduire Sorel à tenter une convergence directe avec les gens de l'Action française au sein du cercle Proudhon. Vous signalez que Berthe est considéré par Alain de Benoît, le fondateur de la Nouvelle Droite, qu'on a d'ailleurs interviewé dans cette émission, comme un révolutionnaire conservateur, et Alain de Benoît est très enthousiaste sur Berthe. Et certains textes de Sorel et de Berthe sont réédités aujourd'hui par des maisons d'édition d'extrême droite, vous le signalez, comme celle de Benoît justement, et d'Alain Soral.
Oui, c'est-à-dire que quand on se met à remettre en cause l'héritage des Lumières en bloc, en fait, on retombe sur les thématiques de l'extrême droite.
De l'extrême droite depuis Joseph de Maistre.
On se met à dire, à tenir des propos antisémites, parce que la Révolution française et les Juifs sont liés dans l'imagerie de l'extrême droite depuis la Révolution française. Les Juifs, les francs-maçons et les protestants, chez Maurras, sont considérés comme les grands pourvoyeurs de l'idéologie des Lumières et donc un peu les soutiens de la Révolution française et de son héritage républicain. Donc, ces militants syndicalistes révolutionnaires, de fait, rejoignent, et même tout à fait concrètement, dans le cercle Proudhon, rejoignent l'extrême droite. Et c'est la matrice de ce qu'on appellerait aujourd'hui les rouges-bruns, en termes idéologiques. Donc c'est pas du tout un hasard qu'Alain Soral les aime bien, qu'Alain de Benoît les aime bien, et que leurs textes les inspirent encore aujourd'hui.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde a l'air de s'étonner aujourd'hui du courant rouge-brun qui a refait son apparition dans les années 90, mais en fait c'est une vieille histoire.
C'est une vieille histoire.
Ça commence même avec la crise de la modernité en réalité. Il y a un lien entre les deux.
Il y a déjà un peu cette dimension-là chez Proudhon. Qui est ambigu, qui par certains aspects célèbre 1789 et son héritage, qui se range du côté de la République à plusieurs reprises, donc il y a ce côté-là, puis il y a un côté plus sombre, très antisémite, très misogyne, très hostile aux protestants, et donc Charles Maurras tire... dans certains textes, tire Proudhon de son côté.
Mais c'est-à-dire que en France, l'histoire de la modernité française a été écrite par les antimodernes pratiquement depuis Balzac. Et donc il y a toujours eu cette espèce de dialectique là entre l'ombre et entre les ténèbres et la lumière.
Ça dépend chez quels auteurs.
Il y a des auteurs. Dans le pays.
Oui, oui, tout à fait.
L'histoire française est presque déterminée par ça.
Est-ce que c'est le pays de la Révolution française?
Oui. Et donc de la contre-révolution.
Ouais.
Just 'cause she smiles don't mean she likes you. Just 'cause she growls don't mean she'll bite. She might be wild, but is she crazy? You never know. You never know. Is she for real? Or is she faking? Is she a rumor? Is she a fact? You never know. You never know. get inside your mind. Now she's in there all the time. You never know till you scratch that itch and walk across that burning bridge.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann.
Alors Stéphanie Rosa, les tendances contemporaines sur lesquelles vous arrêtez, les tendances d'antimodernisme contemporaine sur lesquelles vous arrêtez, vous en citez plusieurs. Hein, vous citez Kimberly Crenshaw, la fondatrice, si je puis dire, du féminisme intersectionnel aux États-Unis. C'est Françoise Vergès. Et dans le contexte des procès de janvier 2015, il y en a sur lesquels je voudrais m'arrêter une seconde, que je ne connaissais pas non plus, qui est Talal Assad, professeur d'anthropologie, qui en 90 a écrit deux longs articles pour blâmer Rushdie au moment de l'affaire des versets sataniques et sur lequel vous arrêtez. Vous pouvez nous expliquer un peu, en dire deux mots de Talal Assad, en particulier sur ses écrits en 2007, On Suicide Bombing, et le livre qu'il a fait paraître avec Judith Butler, Is Critic Secular, dans lequel il revient sur les caricatures de Mahomet.
Oui, alors j'ai choisi cet exemple d'auteur qui est quasiment inconnu en France, parce que j'ai eu du mal à trouver dans la galaxie, disons, des coloniales, d'auteurs qui fassent vraiment un point théorique sur les Lumières. Parce que la plupart du temps, les Lumières, c'est le repoussoir. L'universalisme, on lui accole l'adjectif abstrait, ou abstrait et blanc, enfin voilà, et on en a terminé. Mais ce qui était difficile pour moi, c'était de trouver vraiment un endroit où on expliquait pourquoi l'universalisme était blanc et abstrait et devait être combattu. Et Talal Assad est intéressant aussi parce qu'il est il est quand même influent. Il a été membre de l'équivalent de en France de la commission des programmes dans l'enseignement supérieur en Angleterre et aux États-Unis, donc oui. Il a une certaine influence. Or, quand on regarde sa bibliographie, enfin voilà, la suite de ses écrits, c'est vraiment donc il prend position contre Rushdie au début des années 90. Ensuite, au moment des attentats du World Trade Center, il écrit un livre contre le sécularisme, alors que les tours viennent de s'effondrer. Ensuite, il écrit un texte pour justifier, pour expliquer, disons, les motivations des kamikazes aux Occidentaux qui auraient des préjugés sur ces kamikazes, comme si on voyait les kamikazes différemment selon qu'on est un occidental ou selon qu'on est un malien qui les subit. Enfin, voilà, c'est déjà tout un programme. Et puis, finalement, effectivement, je me souviens plus de la date exacte, mais un collectif pourrait...
En 2009.
Ouais, 2009, donc pour expliquer, donc il me semble qu'il y a déjà eu un incendie aux locaux de la rédaction de Charlie Hebdo, pour expliquer que le blasphème est effectivement quelque chose qu'on doit interdire, enfin en tout cas qui est raciste, qui est condamnable, etc. Avec effectivement tout un aéropage, Judith Butler, Sarah Mahmoud, enfin un ensemble d'universitaires classés à gauche aux États-Unis. Et au moment des attentats de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, quelques jours après, il donne une interview aux Indigènes de la République en France où il n'a pas un mot pour condamner les attentats. Et pas un mot de compassion pour les victimes.
Ou même il le mentionne pas, quoi. Et donc dans c'est Talal Assad qui théorise sur les lumières dans son livre en particulier Formation of the Secular, je crois, paru en 2003, dans lequel il finit par conclure que la colonisation est une conséquence directe de la philosophie des droits de l'homme.
Ouais, alors disons l'architecture de ce genre d'argumentation qu'on retrouve encore une fois mais de façon complètement allusive dans d'autres textes, c'est de dire qu'au fond la colonisation est, contemporaine du moment où la modernité et donc où la sécularisation commence à s'opérer en Europe. Et donc comme c'est contemporain, on passe en gros d'une corrélation purement temporelle à une causalité. On dit c'est la modernité, du coup, qui est responsable de la colonisation Et puis on continue comme ça, c'est la République, on parle de la République française colonise au XIXe siècle, donc c'est de la faute de l'idéologie républicaine, c'est de la faute des droits de l'homme s'il y a eu la colonisation, alors que la colonisation, elle a eu lieu, enfin elle a été, la Grande-Bretagne a colonisé, l'Allemagne a colonisé, l'Italie a colonisé, ils ne se sont jamais revendiqués des droits de l'homme et de la République
pour le faire. Le fait est que, par exemple, en France, c'était plutôt des écrivains ou des intellectuels classés à gauche, comme Victor Hugo, qui était plutôt pour la colonisation, pour le développement colonial.
Alors, encore une fois...
Les antimodernes à l'époque n'étaient pas nécessairement pour la colonisation.
Ça dépendait lesquels, mais ça dépendait aussi quels auteurs se réclamant du républicanisme et des Lumières. Il y a eu une critique du colonialisme dès le XVIIIe siècle, Diderot, dans l'histoire des deux Indes, a des mots très durs contre l'esclavagisme, la colonisation, et il appelle les Hottentots, les colonisés, à se révolter les armes à la main contre l'envahisseur. On trouve pas beaucoup quand même d'auteurs dans le monde et dans l'histoire des guerres coloniales entre les différents peuples, d'auteurs qui dit que les colonisés doivent se révolter contre l'envahisseur. C'est quand même à noter. Et la critique de l'esclavage, on la trouve chez Montesquieu, on la trouve chez pas mal chez Diderot, mais chez d'autres auteurs des Lumières, chez Rousseau. Donc, dès l'émergence de la philosophie des Lumières, il y a eu des contre-feux. Et au XIXe siècle, les contre-feux continuent. Et ils continuent du côté d'une gauche qui se revendique de l'héritage des Lumières.
Oui, mais qui coïncide aussi avec l'idée de il faut lier une éducation, lier une diffusion des idéaux de progrès à travers le processus colonial.
Si on prend un auteur comme Jean Jaurès, qui est vraiment un héritier, alors, l'héritier des Lumières, on va dire par excellence, au départ, il est un peu sur cette illusion du rôle, disons, progressiste de la colonisation, et plus il avance et toujours, en gardant toujours ce cap progressiste et universaliste, et plus il devient critique. Et dans les 20 premières années, enfin dans les 15 premières années du XXe siècle, à la Chambre des députés, il fait plusieurs interventions pour condamner très fermement la colonisation au nom de l'idéal des Lumières. Donc on ne peut pas dire de façon unilatérale, les Lumières ont justifié la colonisation. Elles ont aussi justifié l'anticolonialisme. Et si on prend la deuxième moitié du XXe siècle, la plupart des décolonisations se sont appuyés sur l'idéologie des Lumières et des droits de l'homme. Et
bien sûr, parce que ce qui se passe, c'est que les Lumières ont permis une réflexion sur la trahison de la promesse, en fait. Parce que les Lumières promettent quelque chose, et dans les faits, c'est pas nécessairement ce qui se passe. Et c'est dans cette désillusion-là que se joue à la fois la révolte et aussi, dans le camp des coloniales aujourd'hui, l'amertume.
Sauf que justement, il y a une ambiguïté sur cette amertume, parce que au fond, moi, c'est ce que j'essaye de montrer un petit peu dans ce livre, et puis dans un autre livre qui va sortir, qui au départ était la première partie de mon enquête sur la gauche et les Lumières. Hein. C'est un livre qui va traiter des rapports entre la gauche et les Lumières depuis 1789 jusqu'à Sartre, à peu près. Ce que je constate, c'est qu'en fait, depuis le début, depuis Babeuf, donc depuis le premier communiste, depuis les premiers socialistes, on est dans cette dialectique, dans ce rapport dialectique à l'héritage des Lumières, où on dit les Lumières proclament les droits de l'homme, les Lumières proclament l'égalité entre les hommes, les Lumières annoncent le progrès. Nous, on veut qu'ils soient réels et pas seulement formels. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve déjà chez Babeuf, qu'on va trouver partout, chez tous les auteurs du XIXe siècle, les grands auteurs, chez Marx, chez Bakounine, chez Kropotkin, jusqu'à Sartre. Et où, donc, en fait, l'idée que les Lumières proclament un idéal formel qui doit se concrétiser, c'est le leitmotiv de la gauche depuis le XVIIIe siècle, depuis la fin du XVIIIe siècle. Ce qui est nouveau, c'est que là, les décoloniaux, ils disent pas « on va les réaliser », ils disent « on jette le bébé avec l'eau du bain ».
Oui, parce que de toute façon, ça peut pas marcher, quoi.
Mais sauf que jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est retomber sur la critique anti-lumière des conservateurs.
Mais c'est-à-dire que le problème, enfin, c'est que c'est une question complexe, hein, parce que est-ce que la promesse peut être pleinement réalisée ? On ne l'a jamais vue, c'est-à-dire que... les révolutions ont toujours finalement fini par transiger sur un certain nombre de points, au mieux. Vous citez dans votre livre, vous citez comme exemple positif, vous citez Ho Chi Minh et Nehru. Bon, vous faites quand même remarquer vous-même que l'exemple du Vietnam paraît peut-être un peu trop stalinien, mais Nehru était qu'il vivait effectivement, qui écrit l'Inde doit perdre de sa religiosité pour se tourner vers la science, qui adopte complètement, comme la plupart des leaders du tiers monde à l'époque, une conception du progrès. Nehru était lui-même soutenu par l'Union soviétique. Donc ça s'inscrit quand même dans le cadre de la guerre froide. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver des modèles qui donneraient un peu l'espoir d'une réalisation.
Peut-être parce qu'on manque un peu de sens historique. Parce que finalement, les indépendances, elles ont été remportées. La colonisation, elle a quand même pris fin. Si on prend le cas du Vietnam, bien sûr que c'est une dictature, bien sûr que... mais enfin, l'universalisme d'Ho Chi Minh, il a permis, entre autres, à ce que les minorités du nord du Vietnam, notamment, étaient intégrées à la communauté nationale et soient pas massacrées. Donc il y a eu des rapports compliqués, hein. Je dis pas que ça s'est fait, tout s'est fait facilement, mais c'est pareil, en Inde, le sécularisme des premiers dirigeants de l'Inde a permis... un certain nombre de progrès sur le terrain de l'éducation a permis le développement quand même de l'Inde. Je dis pas du tout que c'est parfait mais.
Mais voilà, donc c'est pas parfait. C'est la promesse.
Mais est-ce que ça peut être parfait?
C'est exactement la question que je posais. Oui, tout à fait.
Moi, j'en sais rien. Là où je reste progressiste, c'est que je pense qu'il faut. Il faut continuer, il faut poursuivre l'effort d'émancipation, mais c'est pas en sciant à la base les fondements idéologiques de l'émancipation qu'on ira plus vite. Ça, j'y crois pas.
Ah oui, il y a quelqu'un dont on devrait parler dans ce livre. On n'a pas le temps malheureusement. C'est Michel Foucault. Ouais. Qui vous accordez une place très importante. Michel Foucault lui-même a rompu avec le PCD les années 50. Mmh. Il a rompu avec le communisme. Vous en faites l'élément charnière de cette tradition anti-lumière. Est-ce que c'est pas un peu le réduire quand même?
Ah bah, de toute façon, moi, je prétends pas fournir une analyse précise de toute l'œuvre de Foucault. Ce serait bien difficile en un si petit, oui. En un si petit volume. Là, moi, je me suis bornée à analyser quelque chose qu'on n'analyse jamais. C'est-à-dire le rapport de Foucault à la tradition socialiste au sens large. C'est-à-dire aussi bien les anarchistes, les communistes, les socialistes. Et ce que Foucault a cherché, la stratégie de Foucault face à cette tradition qui est en fait une stratégie de rupture. Et j'essaye de montrer que c'est cette stratégie de rupture qui l'amène à remettre en cause les fondements idéologiques de cette triple tradition, c'est-à-dire les Lumières. Mais je prétends pas épuiser l'intérêt de l'œuvre de Foucault.
Mais vous pensez vraiment que... Parce qu'on a l'impression qu'il y a implicitement dans votre livre l'idée que l'héritage des Lumières, il est nécessairement à gauche.
C'est pas ce que je pense. Je pense que, la tradition des Lumières, elle a débouché sur... la tradition libérale, je veux dire, ultimement, le président Macron, il me semble, disons, l'héritier de cette tradition, et puis la tradition socialiste, sont deux branches qui viennent de l'héritage des Lumières, mais qui se séparent. Mmh. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais la gauche se distingue de la tradition libérale, au sens où elle dit, dans les droits, ils doivent pas seulement être politiques, ils doivent pas seulement être formels, on ne doit pas tous juste avoir le droit de vote... encore qu'il a fallu se battre pour l'avoir tous, mais ça suffit pas. Il faut des droits sociaux, il faut une amélioration concrète de la vie de tous, ce que la tradition libérale ne dit pas.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Masseret, avec à la réalisation Perret Legras et à la technique Jean Frédérix. Dans un instant, une histoire particulière.